Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
L'évangile de Matthieu au chapitre 5, nous lirons à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Nous lisons. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà un passage de l'Écriture qui immédiatement suscite une multitude de questions dans notre esprit. Un passage de l'Écriture qui a une autorité toute particulière, puisque ces paroles sortent de la bouche du Créateur, oui, du Créateur. Jésus est Dieu manifesté en chair. Jésus est l'expression de Dieu aux hommes. Et cette expression de Dieu aux hommes, c'est l'amour. Ôtez l'amour à Jésus, et il n'y a plus de Jésus. Dieu est amour, et il a voulu s'exprimer au monde à travers Christ, c'est-à-dire l'incarnation. C'est-à-dire Dieu en chair. Frères, sœurs, je ne suis pas là pour vous expliquer ces mystères. Le Dieu créateur remplit l'univers. Ce Dieu créateur est devenu homme, mais l'univers n'était pas vide de Dieu. Je ne peux expliquer ces choses-là. Le grand tort de beaucoup, c'est qu'ils veulent essayer d'expliquer Dieu. Je ne puis que constater, et je constate, et ce que je constate est merveilleux. Mon Dieu remplit l'univers, et l'univers n'était pas vide quand il était dans ce corps de chair. Et qu'est-ce que je vois dans ce corps de chair? La manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Et quand il était sur cette terre, né d'une femme conçue par le Saint-Esprit, et qu'il a commencé son ministère après avoir reçu le Saint-Esprit, lorsque la colombe est tombée sur lui, à l'âge de 30 ans, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême plongé qu'il avait été par Jean-Baptiste, il a commencé son ministère. Et nous avons là, dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, le fameux sermon sur la montagne. Ce sermon qui est une pièce maîtresse du christianisme, ce sermon qui est la constitution même du véritable christianisme. Dans le monde, beaucoup de sages du monde, de philosophes et même de païens ont admiré cette pièce maîtresse du christianisme. Oh, si tous les chrétiens voulaient marcher selon ce chemin-là, tracé par Jésus. Le monde serait différent, en tout cas l'Église serait bien différente, ce que nous appelons l'Église. Mais malheureusement, bien souvent il n'est plus dans l'Église. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle l'Église n'obéit pas à cette constitution, à cette pièce maîtresse du véritable christianisme. Tout ce qui s'appelle chrétien n'est pas forcément chrétien, sachez-le bien mes frères. Tout ce qui s'appelle Église n'est pas forcément l'Église de Jésus-Christ. Sachez-le bien, mes frères. Oui, combien d'hommes à travers les âges ont admiré ce sermon sur la montagne? Je me souviens, il y a bien des années, lorsque nous n'étions qu'un petit groupe ici à la borne, j'ai prêché pendant un an et demi sur le sermon sur la montagne, verset par verset. Et Dieu m'a béni, et il m'a béni, et c'était une révélation pour moi extraordinaire. Mais c'est pas pour cela que nous ne devons pas y revenir. Richesse insondable de la sagesse divine et de la volonté divine révélée à travers celui qui a été fait chair, l'incarnation de Dieu, dans un corps tel que le nôtre. Nous avons tiré là un passage de cette pièce maîtresse qu'est le sermon sur la montagne. C'est pour ça que j'aimerais vous parler ce matin sur amour et ennemi. Ce sermon qui est pour ainsi dire la constitution du christianisme, qui est pour ainsi dire la loi fondamentale du christianisme, qui est pour ainsi dire les principes de base, le fondement même de tout vrai, véritable christianisme. Des gens du monde, des philosophes du monde, des païens, je pense à Gandhi. Gandhi qui voulait l'indépendance pour son pays, les Indes, avec la non-violence. Sachez que ce Gandhi, qui adorait d'autres dieux, qui avait toute une philosophie païenne, lisait tous les jours le sermon sur la montagne. C'est du moins ce que j'ai lu quelque part. Il admirait cette pièce maîtresse, et quant à lui, il se disait, il l'a dit, si tous les chrétiens du monde écoutaient cela, le christianisme serait différent. Frères et sœurs, la responsabilité qu'est la nôtre est énorme. Énorme. Et je vous encourage à lire le sermon sur la montagne. Vous n'allez pas y comprendre grand-chose les premières fois. Vous allez voir des principes, comment les expliquer, etc., etc. Mais si vous vous mettez à genoux et vous priez et vous demandez l'aide du Saint-Esprit, vous allez voir que c'est la richesse même. La vraie, celle qui ne périt pas. Tout christianisme qui ne repose pas ses principes sur ce sermon sur la montagne est un christianisme sans valeur. Nous n'avons pas besoin de la philosophie des hommes pour bâtir notre foi. Nous n'avons pas besoin des principes et des élucubrations des plus grands théologiens et docteurs en théologie de ce monde. S'ils s'écartent de ce sermon sur la montagne, je ne veux rien savoir de leur théologie. Le plus grand théologien du monde et de l'univers, c'est celui que nous avons crucifié à cause de nos péchés, l'incarnation de Dieu. Jésus-Christ. Là, vous trouverez le véritable christianisme, qui est l'idéal suprême de la nouvelle société que Jésus est venu inaugurer sur la terre et qu'il a fondé sur le sacrifice, qu'il a fondé sur le sang qu'il a versé pour la rançon de nos péchés, qu'il a fondé sur son amour qu'il a exprimé de cette façon. Jésus. Ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Dans les évangiles, Jésus a parlé bien des fois de la prière. Un jour, il a expliqué à ses disciples comment il fallait prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans cette prière, nous avons un type de la prière. Qu'est-ce qu'il faut demander? Comment il faut le demander? Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on doit répéter comme une machine, comme une veine redite. C'est un type de prière. C'est une façon qu'il nous exprime comment nous devons lui parler. Bien des fois, Jésus a parlé de la prière, mais dans le sermon sur la montagne, quand il est là, au début de son ministère, il parle pour la première fois de la prière. Or, ce qu'un homme dit pour la première fois, ces déclarations qu'il fait pour la première fois en public, comme il l'a fait là, dans le sermon sur la montagne, a une grande importance. Car là, il jette les bases. Jésus était venu pour former dans ce monde une nouvelle société. Une nouvelle société d'hommes et de femmes. Quelque chose de nouveau. Jésus, là, parle de la prière. Et là, il nous donne des principes qui nous révèlent comment pouvoir avoir une prière efficace qui obtient des résultats. Il n'y a que quelques phrases, mais dans ces quelques phrases, il y a beaucoup. Nous constatons que le premier enseignement que Jésus donne sur la prière est que nous prions en faveur de nos ennemis. Voilà la toute première, le tout premier enseignement que Jésus donne à cette nouvelle société qu'il est venu établir ici-bas sur la terre. La première directive qu'il leur donne, quant à la prière, avant de la disséquer, si je puis dire, avant d'expliquer plus en détail, il dit, priez pour vos ennemis. Priez pour nos ennemis. À faire avec notre marche chrétienne dans l'amour. Car lorsque vous lisez ce sermon sur la montagne, vous voyez son amour être exprimé en toutes choses, dans chacune de ses paroles. Ce sermon sur la montagne déborde de l'amour de Christ. Et il veut nous faire comprendre comment cet amour doit être exprimé. Il y a là un principe fondamental. Il est au début de son ministère, comme je l'ai déjà dit, et il jette les bases de cette nouvelle société qu'il est venu établir ici-bas sur la terre. Et sa première déclaration quant à la prière est celle-ci. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Choquant! Choquant! Christianisme de 1996, appliques-tu ce commandement? Christianisme d'aujourd'hui, de notre âge, dit âge éclairé, appliques-tu ce principe? Cette nouvelle société, c'est une nouvelle société révolutionnaire. Oui, car en effet, Jésus est venu pour une révolution dans ce monde, et la révolution de Jésus continue. Frères et sœurs, Jésus est venu faire une révolution dans ce monde, mais avec cette différence que la révolution des hommes, elle est toujours basée sur le sang des autres qui est versé. C'est pas vrai? Tandis que la révolution de Jésus, elle est basée sur son propre sang qu'il a versé pour nous, et c'est la raison pour laquelle sa révolution continue. Oh, que de changement! Révolution nous parle de changement, n'est-ce pas? Révolution nous parle de mouvement, quand on parle d'un corps qui se déplace dans l'espace, comme la lune autour de la Terre, on parle des révolutions de la Terre. Donc, dans le mot révolution, il y a mouvement et il y a changement. Eh bien, quand Jésus est venu dans nos cœurs, il a créé en nous en une nouvelle marche, un nouveau mouvement. Avant, nous marchions selon la convoitise du monde. Maintenant, nous marchons pour la gloire de Dieu. Nous marchons en obéissance avec sa parole, en obéissance. Et nous voulons obéir. Et changement, car depuis qu'il est rentré dans notre cœur, notre vie a été changée. Si votre vie n'est pas changée, frères, sœurs, c'est que vous n'avez pas reçu encore Jésus-Christ. Le menteur n'est plus menteur, le voleur n'est plus voleur, l'adultère n'est plus adultère, l'impur n'est plus impur, l'ivrogne n'est plus ivrogne. La corruption, il ne la connaît pas, il est droit, il est juste, il est transparent. Autrefois, il n'était pas comme ça, aucun d'entre nous n'étions comme ça. Mais nous sommes devenus, pourquoi? À cause d'une révolution dans notre cœur par la puissance de Jésus. Oui, il est venu pour une révolution. Pour former cette nouvelle société qui s'appelle l'Église, ou encore qui s'appelle corps de Christ, ou qui s'appelle épouse de Christ. Il y a plusieurs expressions employées dans la Bible. Ça, c'est cette nouvelle société qu'il est venu distinguer des autres. Peut-on te distinguer du monde? Peut-on te distinguer des autres? Appartiens-tu à cette nouvelle société? Et Jésus, l'apôtre Paul nous dit que Jésus est la tête de cette nouvelle société. Donc, s'il est la tête, cette nouvelle société doit être caractérisée par le caractère de Jésus, qui est l'amour. Cette nouvelle société doit exprimer l'amour sur tous les niveaux. L'amour du prochain est l'amour de Dieu. Le corps de Christ est caractérisé par l'amour qui règne. Du moins, qui doit y régner. Une église, quelle qu'elle soit, dans laquelle dans laquelle la cupidité se manifeste. Une église, quelle qu'elle soit, dans laquelle la dissimulation se manifeste, dans laquelle le mensonge se manifeste. Une église dans laquelle la corruption se manifeste, à quelque niveau que ce soit. Une église dans laquelle l'orgueil et la vantardise humaine et de la chair se manifestent. Une église dans laquelle la discrimination se manifeste. Une église dans laquelle il y a de l'envie, de la jalousie. Une église dans laquelle il y a de la rivalité, dans laquelle il y a les œuvres de la chair, sous n'importe quelle forme que ce soit, n'est pas le corps de Christ. Vous m'entendez? Elle peut être n'importe quoi. Elle peut avoir l'étiquette d'église, mais elle n'est pas le corps de Christ. Ce n'est pas l'étiquette qui donne la valeur de ce qu'il y a dans la bouteille, frère, sœur. Vous pouvez mettre une belle chose, une belle couleur dans une bouteille et mettre dessus que c'est du parfum de Chanel. Et puis quand vous le débouchez, une mauvaise odeur s'en échappe. Non, c'est faux. Ce n'est pas l'étiquette qui fait l'Église, mais ce sont les œuvres. Et quelles œuvres? Les œuvres de Christ. Pourquoi? Eh bien parce que Christ ne peut pas être la tête d'un corps corrompu. Christ ne peut pas être la tête d'un corps menteur. Christ ne peut pas être la tête d'un corps impur et plein de corruption. Non. Il est la tête d'un corps qui lui ressemble. Ce qu'est la tête, le corps le sera. C'est pas vrai? Nous le savons, c'est logique. Car le corps dépend de la tête. Le corps ne peut vivre par lui-même. Impossible. Vous enlevez la tête, le corps meurt. S'il y a unité entre le corps et la tête, il y a vie et il y a expression. Et cette expression, c'est l'expression de l'amour. C'est ça que le monde attend. Le monde attend de voir l'amour de Dieu manifesté à travers son corps. Le corps réagit toujours sur les impulsions de la tête. Il exécute ce que la tête commande. Ainsi, le corps, qui s'appelle l'Église, s'exprime et exprime ce que la tête veut qu'il exprime. Christ voudra qu'il exprime. Si Christ est la tête, le corps doit exprimer ce que la tête exprime. Et la tête qui est Christ ne peut exprimer des choses mauvaises, ne peut exprimer de la méchanceté, ne peut exprimer de la violence, ne peut exprimer des mensonges, puisque le corps fait ce que la tête lui commande. Si donc l'Église exprime autre chose, impureté, corruption, cupidité, et que sais-je encore, c'est que elle n'est pas attachée à la tête. Si elle n'est pas attachée à la tête, elle n'est pas l'Église. Ainsi, le corps s'appelle l'Église et exprime ce que la tête, qui est Christ, voudra qu'il exprime. Il doit, le corps, il doit exprimer le caractère de Christ. Il doit exprimer les sentiments de Christ. Il doit exprimer les désirs de Christ. Il doit exprimer la force de Christ, l'amour de Christ, le courage de Christ, la douceur de Christ, la sainteté de Christ. Autrement dit, le corps exprime toute la personne de Christ, son caractère et sa personnalité. Ce qui fait la personnalité d'un individu, c'est sa tête, bien sûr, mais c'est aussi son corps. C'est pas vrai? Pourquoi? Parce que le corps exprime ce que la tête est, commande, dit. Cette nouvelle société, donc, composée par chacun de ceux qui sont nés de nouveau, voilà pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire. Vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas membre du corps. Pas d'autre chose à vous dire. Je ne vous dis pas, vous n'êtes pas membre de la borne, vous n'êtes pas membre du corps. Non, il y a des gens qui sont peut-être membres de la borne, mais qui ne sont pas membres du corps de Christ. Attention, frères, sœurs. Ce n'est pas ma religion, entre guillemets, qui va vous faire appartenir au corps de Christ. Non, ce qui vous fera parvenir à être membre, à être cellule, car notre corps est composé de milliards et de milliards de petites cellules, ce qui fera que vous apparteniez au corps de Christ, vous, cellule, c'est la nouvelle naissance, c'est la repentance, c'est le renoncement aux œuvres mauvaises. Désormais alors, le corps n'exprime plus les expressions de la nature adamique. Il ne représente plus le corps adamique. Il est né de nouveau. Alors, tout est changé. Il a désormais la nature de Dieu, selon la tête du corps auquel elle appartient. Nous ne sommes pas indépendants. Vous m'entendez? L'Église n'est jamais un corps indépendant. Jamais. Laissons cette histoire d'indépendance de côté. Un corps n'est jamais indépendant. Un corps est une unité. Si ma main est indépendante de moi, eh bien, elle doit se séparer de mon corps. Et si elle se sépare de mon corps, elle ne peut plus rien faire, parce qu'elle reçoit la vie de mon corps. C'est pas vrai? La vie est les commandements de mon corps. Donc, ma main est dépendante de moi. Elle va faire ce que ma tête va lui dire de faire. C'est pas vrai? Alors, pourquoi nous voulons mettre en avant notre indépendance? Si vous êtes indépendant, vous n'appartenez pas au corps. Nous sommes dépendants les uns des autres. Chaque cellule. Moi, je suis une cellule quelque part. Toi, tu es une cellule quelque part. Et nous travaillons ensemble pour le bien du corps. Et nous faisons ce que la tête veut que nous fassions. Dans le sermon sur la montagne, Jésus jette les bases de cette société. Et là, nous touchons à un point important parmi beaucoup de points. On en a pris un ce matin qui suit le thème que nous développons depuis déjà bien des semaines. Et ce point est « Aimez vos ennemis ». Ça, c'est dur, hein? Oh, il ne dit pas ça aux hommes du monde, non. Pour eux, ce n'est pas cela. Mais pour nous, corps de Christ, aimez vos ennemis. Jamais Christ n'a appelé à la haine. Jamais Christ n'a appelé à la vengeance. Jamais Christ n'a appelé à rendre coup pour coup, ou insulte pour insulte, ou colère pour colère. Jamais Christ n'a appelé à accuser parce qu'on était accusé. Accusation pour accusation, mort pour mort, jamais. Jamais Christ n'a appelé ses disciples à aux revendications, quelles qu'elles soient. Jamais Christ a appelé à ses disciples à manifester pour lui avec des banderoles et crier pour leurs droits. Jamais. Mais son influence demeure jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alléluia. Tous les revendicateurs des âges passés, tous les accusateurs des âges passés, où sont-ils? Et leur rêve, qu'est-il devenu? Tandis que la réalité du christianisme continue, frères, sœurs, et un jour nous nous tiendrons devant lui, nous sommes du côté de la victoire. Il y a des gens qui disent, oui, d'accord, d'accord, à l'Église, nous sommes chrétiens. À l'Église, c'est une chose, c'est un comportement, mais hors de l'Église, c'est différent. C'est différent. Nous sommes dans le monde et nous agissons comme tout le monde dans le monde. Ah! C'est comme si on disait, si un homme disait, ma main est commandée par ma tête. Mais il y a certains moments où ma main est indépendante et je ne réponds pas de ce qu'elle fait. Je ne suis pas responsable de ses actions. C'est comme si quelqu'un tue à l'aide d'un couteau, à l'aide d'une arme à feu, et lorsqu'on le prend, on lui dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Il dit « Oh, ce n'est pas moi, c'est ma main. » Quel tribunal va accepter cette argumentation, dites-moi? Non, nous faisons partie du corps de l'Église de Jésus-Christ, dont il est la tête. Nous nous comportons et agissons conduits par la tête, manifestant ce qu'elle veut, ce qu'elle commande, où que nous soyons. Et c'est pour cela que Jésus a dit « Soyez le sel de la terre ». Pourquoi ? Parce que hors de cette église, ce dimanche matin, quand vous allez à l'extérieur, dans vos bureaux, au Parlement, où que ce soit, dans vos responsabilités politiques, religieuses, économiques, sociales, professionnelles, vous continuez à vivre votre vie de chrétien. Pourquoi ? Parce que vous êtes attaché au corps et la tête vous conduit dans vos actions. C'est comme quelqu'un qui siégeait dans une grande assemblée de notre pays. Ces deux personnes venaient ici dans notre église, je ne sais pas si elles viennent, je ne sais pas si elles sont là, j'en sais rien. Du reste, je ne connais même pas leur nom. Mais elles siégeaient ensemble. Et l'un d'eux a fait des déclarations qui étaient inacceptables quant à la morale, quant à la justice, quant à la vérité. L'autre lui a dit, mais comment tu peux parler comme ça? Tu es un chrétien, c'est impossible de parler comme ça. L'autre lui a dit, écoute, hein. Ici, c'est telle situation, à l'église, c'est une autre situation. Bon, si c'est comme ça que tu raisonnes, eh bien, sache que tu n'es pas membre du corps. Car celui qui te conduit, celui que tu exprimes, n'est pas Christ à ce moment-là. Tu exprimes ton père qui est le diable. Non, la main n'est pas indépendante de la tête. Par rapport à la tête. La main n'a pas de vie par elle-même. Ou alors, vous appartenez à un corps malade. Vous savez, il y a des gens qui ont cette maladie. On appelle ça, cette maladie, la maladie de Parkinson. Incapable de contrôler les gestes. Incapable. Regardez un homme qui est atteint de Parkinson. Il veut essayer de manger. Tout d'un coup, sa main s'en va comme ça. Il peut pas. Impossible. Sa main, son corps, ses mains tremblent d'abord. De temps en temps, il arrive à arrêter le tremblement, il essaye de manger, hop, la main s'en va comme cela. Sa main est devenue indépendante par rapport au corps. Pourquoi? Parce que sa tête est malade. Les nerfs sont malades. Appartenez-vous à un corps malade? Moi, je sais que j'appartiens à un corps sain. Et que la tête de ce corps est en bonne santé et qu'il a déjà tout préparé pour les siens. Nous sommes le corps de Christ. Aimer nos ennemis. Nous y venons. Jésus parle d'aimer son ennemi. N'est-ce pas excessif? N'est-ce pas excessif? Aimer quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a volé, qui vous a accusé injustement. Mais cela me rend perplexe et rêveur. Est-ce seulement possible que d'aimer son ennemi? Remarquons d'abord que pour les Juifs du temps de Jésus, dans le temps de la loi de Moïse, il n'y a pas d'enseignement sur l'amour du prochain. C'est tout le contraire. Lisez David. David, quand il priait Dieu, il dit priait à ses ennemis. Il disait, détruis-les, qu'ils tombent dans une fosse, que leurs os sèchent au soleil dans le désert. Détruis-les, que pas un ne se tienne devant toi, que leurs jeunes meurent en bas âge. Détruis-les. Voilà la prière qu'il faisait pour l'ennemi. Mais la Bible nous dit que nous sommes sous une meilleure alliance. Toute la révélation de l'amour de Dieu n'avait pas été donnée à Israël. Oui, il connaissait un Dieu d'amour dans ce sens que un Dieu lent à la colère et riche en beauté, riche envers son peuple, qui bénit son peuple, qui aime son peuple, qui combat pour son peuple. Il y a plein de témoignages d'amour pour le peuple, mais il n'y avait jamais de témoignage d'amour en faveur de l'ennemi. Au contraire, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. À cause de cela, Jésus, le révolutionnaire, est en train d'enseigner un principe qui bouleverse tout. Qui bouleverse tout. Car, souvenez-vous d'une chose, il y a deux choses. Il y a la loi et il y a la grâce. Il y a la loi et il y a l'amour. Jusqu'à aujourd'hui, si tu rejettes l'amour, si tu rejettes la grâce, tu tombes sous la loi. Et pour la loi, c'est œil pour œil et dent pour dent. Mais nous, corps de Christ, nous ne marchons pas selon la loi, nous marchons selon la grâce. Parce que nous sommes sauvés par grâce et par la foi. Alors, si nous sommes sauvés par grâce et par la foi, qui est une manifestation de l'amour de Dieu pour nous, manifestons aussi cet amour envers nos ennemis. Si nous étions sous la loi, oui, c'est normal, œil pour œil, dent pour dent. Mais nous sommes sous un nouveau régime, frères et sœurs. Et Christ est venu établir ce nouveau régime. Et il en pose la première pierre, le sermon sur la montagne. Amour de Dieu. Amour de Dieu que nous devons manifester. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est vrai. C'est tout l'enseignement que les Juifs avaient reçu. Mais Jésus dit quelque chose d'entièrement différent. Ils ne connaissaient rien, les Juifs, à cette époque-là, de la loi de l'amour en faveur de l'ennemi. On ne connaissait pas l'amour de Dieu qui fut révélé en Jésus-Christ. C'est la première fois qu'on entend parler de cela. Aimez vos ennemis. Je comprends que ces Juifs, ces pharisiens, ces scribes, ont commencé à être perplexes, car beaucoup d'entre nous, nous sommes perplexes. Est-ce possible d'aimer son ennemi? Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez aimer vos ennemis que si vous êtes né de nouveau et que votre nature est changée. Alors vous ressemblerez à votre maître. Il n'y a que l'amour divin qui puisse aimer son ennemi. Que l'amour qui était déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme nous dit Romains 5, 5. Ces Juifs ne pouvaient comprendre Jésus. Ils n'avaient pas de nouvelle nature. Ils ne connaissaient pas de Dieu d'amour. Ils ne connaissaient pas de Dieu de pardon. Ils ne connaissaient pas de Dieu de compassion en faveur de l'ennemi. C'était toujours en faveur de eux, mais pas en faveur de l'ennemi. C'est pourquoi, chose nouvelle pour eux, et les nouvelles choses, on ne les accepte pas facilement. L'amour a été révélé dans la personne de Jésus-Christ. Que voulait exactement dire Jésus par ses paroles? Est-ce que nous le comprenons seulement? Voilà une question. Comprenons-nous, nous, Église de Jésus-Christ? Remarquons que Jésus dit au verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Le mot « parfait » là n'est pas dans le sens de « parfait comme Dieu ». Car Jésus sait que c'est un idéal que nous ne pouvons atteindre ici-bas dans la chair. Et il ne va pas nous dire « soyez parfaits comme Dieu est parfait » puisque nous sommes encore dans la chair et que la chair est pleine d'imperfections. Mais ne sortons pas du contexte biblique. Jésus parle de l'amour que nous devons aux ennemis. Donc, ayez cet amour qu'il a lui-même pour ses ennemis. Le disciple sera comme le maître. Soyez donc parfaits en amour pour vos ennemis, comme votre Père Céleste est parfait. Et Jésus, qui est le Père en chair, a montré cet amour. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il n'a pas maudit, il n'a pas crié, il ne s'est pas défendu, mais il a aimé jusqu'au bout ses ennemis. Jésus ne donne pas là une suggestion, mais il donne là une directive, non seulement à eux, mais à nous aussi. Nous devons aimer nos frères, nos amis, nos parents, c'est normal. Mais, plus que cela, nous devons aimer nos ennemis. Mais qui sont-ils, ces ennemis? Eh bien, Jésus le dit, ceux qui vous maudissent, bénissez-les. Ah, on vous maudit, on vous dit toutes sortes de mal. Vos parents vous maudissent, parce que vous ne voulez pas faire selon la coutume. Des choses que Dieu réprouve, de l'occultisme. On vous maudit. Mais qu'avez-vous à trembler? Qu'avez-vous à avoir peur? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous êtes membre du corps. Est-ce que Satan peut attaquer le corps? Il va l'attaquer, c'est vrai. Mais la tête est là. Alléluia. Frères, sœurs, ils vont vous maudire. Dans votre travail, dans votre emploi, dans le monde, dans vos relations. Vous dire toutes sortes de sottises et de méchancetés. Mais que faites-vous? Vous bénissez Mon frère, je demande à Dieu qu'il te bénisse. C'est tout ce que je désire pour toi. Ensuite, quels sont nos ennemis? Ceux qui vous haïssent. Oh, il y a des gens qui nous haïssent dans le monde. Il y en a des gens qui nous haïssent. Haïssent pour toutes sortes de motivations. Par jalousie. Beaucoup nous haïssent par jalousie. Je sais ce que c'est, cela, moi-même. Ils vont vous haïr par jalousie. Alors, allez-vous haïr à votre tour? Non. Faites-leur du bien. Oh, c'est quelque chose de difficile. Ça, je sais. Ça demande à la chair de mourir un peu plus. Au lieu d'haïr, vous faites du bien. Vous faites du bien. Ensuite, quels sont ces ennemis? Ceux qui vous maltraitent. Ceux qui vous persécutent. Jésus dit, priez pour eux. On vous maltraite injustement. On vous fait du mal. On ne vous donne pas vos droits. On cherche à vous supplanter. On cherche à prendre ce qui vous appartient. Votre droit. On veut vous ôter votre droit. Pour quelqu'un qui n'a pas le droit, qu'allez-vous faire maintenant? Priez pour eux. Seigneur, tu vois, je suis rejeté de côté, moi qui avais droit à cet avancement, moi qui avais droit à ce meilleur salaire, moi qui avais droit, Seigneur, mais un autre m'a supplanté. Seigneur, je te prie pour lui, donne-lui de te trouver, il ne te connaît pas. J'ai pitié pour lui, car il est manipulé par Satan. Voilà la prière. Jésus ne veut pas que nous nous vengions. Non! Si tu veux te venger de celui qui te fait du mal, eh bien, tu n'es pas digne de ton Père. À moi la vengeance, dit le Seigneur. À moi la rétribution. Quand tu fais du bien à ton ennemi, quand tu pries pour ton ennemi, quand tu le bénis alors qu'il te maudit, la Bible nous dit, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Car si il ne change pas son jugement, la vengeance, c'est Dieu qui l'exercera. Et ce sera terrible. Dieu attend, car il veut la repentance aussi de votre ennemi. Car votre ennemi, il est mort pour lui aussi. La vengeance ne nous appartient pas. Nous devons aimer, nous devons bénir, nous devons faire du bien, nous devons prier pour nos ennemis. C'est notre travail et c'est une directive qui donne à son Église, à son corps. En ce faisant, nous trouverons soulagés. Oui, nous aurons un soulagement. Et notre colère disparaîtra. Dites-moi, mes amis, quand vous priez pour votre ennemi qui vous a fait tant de mal, vous allez voir que votre colère va fondre. Elle va disparaître. Si nous faisons cela, mes frères, nous exprimerons l'amour de Dieu au monde qui a tellement, tellement besoin d'amour. Jésus nous explique pourquoi nous devons agir de la sorte. Écoutez bien, il nous dit, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Si vous n'êtes pas capable de prier pour votre ennemi, si vous n'êtes pas capable de bénir votre ennemi, si vous n'êtes pas capable d'aimer votre ennemi, alors vous n'êtes pas fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes séparés du corps. Voilà ce que disait Jésus. Autrement dit, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas fils, vous êtes peut-être esclave, ou alors vous êtes hors du corps. Vous devez ressembler à votre Père. Si vous êtes membre du corps, vous ne pouvez rien faire d'autre que ce que la tête veut. Et la tête veut que vous aimiez vos ennemis. Pourquoi la tête reçoit les ordres, le corps reçoit les ordres de la tête? Pour les exécuter. Autrement dit, on n'est pas du corps. Pour être du corps, il faut être né de nouveau. Pour être une cellule dans le corps, il faut être né d'en haut. Pour aimer ses ennemis, il faut être du corps dont Jésus est la tête. Où en êtes-vous, frères et sœurs? Baissons la tête, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu vois notre problème? Nous avons un grand problème. Nous nous prétendons, Seigneur, chrétiens, membres du corps. Nous nous prétendons, Seigneur, enfants de Dieu. Mais dans notre cœur, il y a la haine pour nos ennemis. Pas seulement la haine, Seigneur, parce que nous savons que la haine n'est pas bonne, mais Seigneur, il y a indifférence. Nous tournons le dos à notre ennemi, nous l'évitons, nous ne voulons pas le voir, nous le rejetons. Seigneur mon Dieu, ce n'est pas ce que tu dis. Tu dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu dis, priez pour ceux qui vous font du mal et qui vous persécutent. Tu dis, aimez vos ennemis. Aimez, l'amour doit trouver une expression. S'il n'y a pas d'expression, il n'y a pas d'amour. Personne ne peut aimer seulement en parole. Ô Dieu, aide-nous à comprendre que nos vies deviennent conformes à la tienne. Aide-nous, Jésus. C'est vrai, dans ma vie, bien des fois, j'ai manqué à cela. Ce n'est pas que j'ai haï dans mon cœur, non. Mais j'ai tourné le dos. Et bien souvent, je n'ai pas prié. J'aurais dû prier plus. J'aurais dû plus pleurer devant toi pour que celui qui ne m'aime pas se repente. Seigneur, je veux être membre du corps. Seigneur, nous voulons être membres du corps et recevoir de toi les ordres et les exécuter. Nous sommes devant toi maintenant. Et le Seigneur s'adresse à vous, frères et sœurs. Si vous n'avez pas aimé vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Vous avez mal fait, repentez-vous. Levez-vous, vous qui voulez vous repentir à cette heure maintenant, parce que vous n'avez pas aimé vos ennemis, parce que vous avez haï vos ennemis, parce que vous n'avez pas fait du bien à ceux qui vous maudissent. Repentez-vous et dites, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, ô Dieu, parce que j'ai manqué dans ce ministère, dans cette tâche. Pardonne-moi, ô Dieu, j'ai haï. J'ai répondu à la calomnie par la calomnie. J'ai répondu à la violence par la violence. Mon Dieu, pardonne-moi, Seigneur, car j'ai failli. Je prétends être membre du corps, mais je ne fais pas ce que la tête désire que je fasse. Je n'ai pas aimé, malgré tout. Je n'ai pas su supporter la calomnie. Seigneur, je veux prier pour mes ennemis. Je veux leur faire du bien, car il est vrai, tu les aimes et tu veux les incorporer dans le corps. Seigneur, tu vois tous ceux qui se sont levés à cette place, Seigneur. Je te demande, ô Dieu, que dans ta miséricorde, tu veuilles leur donner la force de changer désormais. Tu veux leur donner la force de quitter toute haine et d'exprimer ce que Jésus a exprimé toute sa vie, l'amour du prochain. Ô Jésus, que notre Église soit meilleure, qu'elle soit plus pure, qu'elle soit plus vraie et que son témoignage soit plus puissant. Aide-nous, Seigneur, à être vraiment membres du corps. Jésus, travaille dans nos cœurs, je t'en prie.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.